France Inter.
Aujourd'hui dans Affaire Sensible, 1954, l'affaire des fuites. C'est une histoire embrouillée. On y trouve des tiroirs dans les tiroirs. C'est une histoire où l'on croise des politiques, des militaires, des hauts fonctionnaires, des barbouzes, des policiers, des journalistes, des escrocs, des manipulateurs et des menteurs, et des communistes. Parce qu'en pleine guerre froide, la paranoïa anti-rouge est à son paroxysme, et parce qu'il est question ici de secret d'État. En vérité, c'est une manipulation qui visait François Mitterrand, ministre de l'Intérieur, et Pierre Mendès France, président du Conseil. Tout ce que la France comptait de nationalistes, colonialistes et anticommunistes rêvait de voir chuter ces deux hommes. Notre invité aujourd'hui, l'historien Jean Garrigue, auteur de nombreux ouvrages d'histoire politique, dont Les scandales de la République, paru en 2013 chez Nouveau Monde Éditions. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire et rédaction en chef aujourd'hui, Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Étienne Bertin.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
À la caserne de Reuilly, assiégée de reporters de tout poil, le défilé continue. Si Roger Labrusse, le fournisseur de Baranès, caché derrière son journal, a défié les objectifs, Baranès, qui tient toujours le premier rôle, va de confrontation en confrontation. Mais un coup de théâtre s'est produit. Le mystérieux Monsieur Charles, redevenu prosaïquement l'ancien policier Alfred Delarue, s'est constitué prisonnier. Le juge d'instruction dit avoir 600 questions à lui poser. Monsieur Charles avait été amené par le commissaire Dide, rappelé au premier plan et sur le nom de qui s'est engagée toute l'affaire. On a donc vu reparaître le premier visage de ce misérable drame aux rebondissements imprévus. On interroge, on confronte, on attend la suite.
Labrusse, Baranès, Charles, Dide, Delarue. Qui sont ces messieurs dont parlent les actualités françaises du 14 octobre 1954 ? Et quelle est cette affaire des fuites, qui, selon le commentaire du journaliste, est un misérable drame dans lequel un juge d'instruction a 600 questions à poser ? Eh bien, pour raconter 70 ans après cette histoire qui semble nébuleuse, il faut s'attacher au pas d'un homme singulier. À l'âge de 30 ans, pendant la Seconde Guerre mondiale, il échappe aux nazis et rencontre De Gaulle à Londres. Le général l'interroge sur sa renommée dans la résistance. Le jeune homme lui répond sans embâge.
En vérité, il n'y a pas de gaullistes en France. Il existe une poignée d'acharnés, quelques fous, c'est tout. J'en sais quelque chose, j'en suis un.
On dit que la franchise ou l'insolence du jeune homme vexe le général qui ne lui en gardera pourtant pas rancune. Au contraire. En 1942, il lui confie la direction de la section contre-espionnage du BCRA, le service de renseignement de la France libre. À la Libération, il le nomme à la tête d'un tout nouveau service, la Direction de la Surveillance du Territoire, la fameuse DST. Il a 32 ans, et on va arrêter là la devinette, il s'appelle Roger Vibeau. Voici comment le présente Jean-Pierre Alcabache dans le 13-14 de France Inter en 1975.
Vos amis n'hésitent pas à vous comparer à de grands aventuriers tels que Laurence d'Arabie, Roussel, le héros de la Commune, ou au Malraux des Conquérants. Vous êtes excellent cavalier, astrologue, acupuncteur, vous aimez la peinture, la sculpture, le théâtre. Vous avez même écrit deux pièces dont l'une allait être jouée, Barabbas, à la Comédie Française. Mais vos adversaires, qui sont plus nombreux, n'ont jamais compris le mystère, Vibeau. Vous avez été l'un des personnages les plus puissants de la 4e République, le plus influent. 15 ans passés à la tête de la DST. Indéracinable, disaient certains, alors que défilaient 28 gouvernements, 12 ministres de l'Intérieur, 5 directeurs de la Sûreté. Et c'est pour cette raison sans doute que vous avez été le plus craint et peut-être aussi le plus détesté.
Le 8 septembre 1954, c'est un Vibeau fraîchement rentré de vacances qui est convoqué à Matignon où l'attend Pierre Mendès France. 1954, c'est la 4e République. S'il y a un président à l'Élysée, René Cottier en l'occurrence, il y en a un autre, à Matignon, le président du Conseil, le chef du gouvernement, celui qui détient la réalité du pouvoir octroyé par l'Assemblée, qui elle aussi est maîtresse du jeu. C'est ce qu'on appelle un régime d'Assemblée. En 22 ans de 4e République, les députés renverseront autant de gouvernements. C'est peu dire que le fauteuil de Matignon est un siège éjectable. Quelque chose qui nous reparle aujourd'hui, et c'est peu de dire également. À sa prise de fonction en juin 54, le bureau de Mendès, président du Conseil donc, est enseveli sous les dossiers urgents, délicats, périlleux. La guerre d'Indochine, à laquelle il doit mettre fin, la décolonisation qu'il doit mener en douceur, la communauté européenne de défense et l'autonomie atomique française qu'il doit bâtir. Et puis il y a cette affaire de taupe, d'espionnage, de secrets éventés. Voilà pourquoi il reçoit Roger Vibeau ce 8 septembre 1954. Tout à trac, Mendès lui dit « À plusieurs reprises, il y a eu des fuites après un comité supérieur de la défense nationale. Entendez par là, trouvez-moi le ou les coupables. » Ce comité est important. Il réunit des ministres et des hauts fonctionnaires qui y débattent des questions de défense, de stratégie et d'opérations militaires, d'armement, d'atomes, enfin bref, tout ce qui est classé secret, mais visiblement les murs ont des oreilles. Alors Mendès précise à Vibeau, « Quelques jours après le dernier comité, on est venu m'apporter un document constituant une véritable fuite des délibérations. C'était vraiment extraordinaire et effrayant. Ces fuites étaient le reflet exact de la séance, presque du mot à mot. » Mendès veut croire à l'hypothèse des micros cachés, parce qu'il ne veut pas croire à une trahison. Tous ceux, ministres et gradés, qui participent au comité, ne peuvent être soupçonnés de double jeu. Mais dans la salle du Conseil des ministres, où même les radiateurs sont démontés et inspectés, rien. Pas le moindre petit bout de micro, pas l'ombre d'un fil perdu, raconte Vibeau. Se confiant au journaliste Philippe Bernert, il poursuit.
Ce décevant résultat devrait donner à réfléchir. S'il n'y a pas de micro, c'est que les fuites sont manigancées autrement. Mais Mendès se braque sur cette idée de micro. Si on ne les a pas trouvés, c'est parce qu'on les avait déjà enlevés. L'impression prévaut que les micros sont amenés juste avant chaque réunion du comité pour être retirés immédiatement après. J'estime pourtant qu'il ne faut pas négliger d'autres possibilités de fuite. C'est peut-être l'œuvre de micros, dit Mendès, mais il pourrait y avoir des fuites à l'intérieur du comité, vous ne croyez pas ? Si votre hypothèse tient, répond Mendès avec une grimace de chimpanzé amical et pensif. Cela ne peut provenir que des généraux. Ils n'ont pas confiance en moi et souhaitent me créer des difficultés.
Vibeau a beaucoup de mal à se faire remettre la liste exacte des participants, et encore plus à obtenir les documents qui ont fuité. C'est comme si on demandait à un policier d'enquêter sur un crime en lui cachant le corps de la victime et tous les indices y rapportant. Se retournant vers Mendès, Vibeau demande comment il a découvert les fuites. Ce dernier lui répond « Toute cette affaire nous est venue par le commissaire Dide. » Alors, arrêtons-nous un instant sur ce commissaire Jean-Émile Dide. Il entre dans la police en 1940, chargé de la traque des résistants étrangers, logiquement évincé par l'épuration. Mais il est réintégré quelques semaines plus tard et se spécialise en 1947 dans la surveillance des communistes. Ça peut paraître anodin ou pas bien méchant, mais en réalité, le commissaire Dide appartient à une police de l'ombre qui fiche, qui espionne, qui manipule et qui provoque. Début juillet 54, Dide fait donc transmettre à Mendès France le compte-rendu intégral de la dernière séance des comités supérieurs de la défense nationale avec, note le général Claude Clément dans son livre consacré à l'affaire, avec les interventions et les commentaires des différents membres, dans l'ordre de leur prise de parole et avec leurs expressions caractéristiques. Alors, où a été trouvé ce document ? Selon Dide, sur le bureau de Jacques Duclos, le numéro 2 du PC. Bref, il y a un espion communiste au sein du gouvernement. Rappelons que ce parti, à l'époque, est un mastodonte. Une centaine de députés, 25% des voix législatives, un parti communiste qui affiche sa force.
Ivry, le 3 juin 1954, le 13e congrès du Parti communiste français va commencer ses travaux. Voici, venus de toute la France, quelques-uns des 900 délégués. Ces hommes et ces femmes, ces militants de la grande cause du communisme, se réunissent à un moment décisif de notre histoire. Tous les problèmes qui intéressent les Français vont être examinés avec le sérieux et l'ardeur qui fera dire à un journaliste bourgeois présent dans la salle, quand les communistes se réunissent, c'est pour travailler. Ces acclamations enthousiastes expriment ce qui est une des forces essentielles du parti. La confiance en ses dirigeants, dont toute la vie consacrée au peuple est pour chaque militant un modèle et un exemple.
Évidemment, si les communistes français récupèrent des informations stratégiques via les fuites du comité de défense, il les partage avec Moscou ou avec les dirigeants du Viet Minh. Dans cette guerre froide, transmettre des secrets militaires est un acte de haute trahison. Voilà pourquoi l'affaire est sérieuse. D'autant que Mendès apprend que son prédécesseur à Matignon, Joseph Laniel, a lui-même eu vent des fuites au sein du comité. Alors, micro ou traître? On l'avait vu, Mendès ne peut croire qu'un ministre ou un gradé soit une taupe. Mais Vidot, lui, ne croit pas vraiment à la pose des micros. Alors, il se penche sur la liste des participants réguliers au comité. Le président de la République, René Coty. Le président du Conseil, Pierre Mendès-France, qui cumule ses fonctions avec celles de ministre des Affaires étrangères. Le ministre de la Défense, le général Koenig. Le ministre de l'Intérieur, François Mitterrand. Le ministre des Finances, Edgar Faure. Il y a encore les noms de quatre généraux et de deux hauts fonctionnaires permanents. Le secrétaire général du gouvernement, André Ségala, et le secrétaire général de la Défense nationale, Jean Mons. Alors, qui parmi eux est susceptible de trahir? Mendès pense aux généraux qui voudront lui causer un tort personnel. Mais les fuites ont commencé avant, sous le gouvernement Laniel, que les militaires n'avaient aucune raison de détester. D'ailleurs, Vibo araille leur nom. Reste donc trois suspects possibles. Les hauts fonctionnaires Ségala et Mons, et le ministre Edgar Faure, les trois ayant travaillé avec Laniel. Or, assez étrangement, le commissaire Dide fait courir, lui, un autre nom pendant l'été 54, celui de François Mitterrand, son ministre de tutelle, qu'il a soigneusement évité de prévenir. Bon, il ne l'accuse pas directement, non. Il insinue, il sous-entend et laisse la calomnie faire son chemin, tranquillement. Mitterrand est mis au courant le 8 septembre seulement de ces rumeurs. Même Mendès lui a caché ça. C'est, dit-on, le moment où leur amitié se brise. Mais le futur président de la République garde sa rancœur pour lui. L'important, c'est de repérer et colmater la fuite. Le 10 septembre, s'ouvre à l'Élysée un nouveau comité de défense. Autour tournent des voitures radio-joniométriques, des véhicules de la DST capables de repérer d'éventuelles fréquences provenant de micros, on ne sait jamais. Or, ces camionnettes banalisées, estampillées Blanchisserie Francine, ne repèrent aucune émission suspecte. Mais dans la salle du comité, où tout semble se dérouler normalement, deux hommes sont tendus, aux aguets, comme le raconte le général Clément.
Mendès et Mitterrand observent leurs collègues avec une scrupuleuse attention. Le sujet est d'importance. Il s'agit de lancer la construction d'une bombe atomique française, pour se dégager de l'étreinte américaine, et pour développer les progrès de la recherche au bénéfice de l'économie française. Seuls messieurs Ségala et Mons prennent des notes, c'est leur métier. Le premier pour conserver trace dans les archives de la présidence, le second pour le compte-rendu officiel de la séance. L'attention de Mendès est détournée par une discussion qui oppose Edgar Faure et François Mitterrand. Puis Faure prend la porte pour aller s'aérer et fumer sa pipe. La séance prend fin. Salutations, crissement de pneus, il n'y a pas de journaliste.
Et puisque rien d'anormal n'a été repéré à l'extérieur ou à l'intérieur du comité, Vibo doute encore.
Nous en arrivons presque à nous demander si nous n'avons pas rêvé et si les divulgations précédentes ne révèlent pas d'un incroyable et absurde cauchemar.
En réalité, Vibo en rajoute un peu, parce qu'il a sa petite idée. On l'a dit, celui qui alerte le gouvernement sur les fuites, c'est le commissaire Dide. Et ce que Vibo sait depuis quelques jours, c'est que l'informateur du commissaire Dide s'appelle André Baranès. Alors il se renseigne et il le fait suivre. Cet homme de 38 ans est officiellement journaliste. Né à Tunis, il a d'abord travaillé pour la presse locale. Il semble être de gauche, mais milite d'abord avant-guerre pour le PPF de Jacques Doriot, figure majeure de la collaboration. Après-guerre, Baranès rejoint le PC et rédige quelques échos dans le journal Libération. Officieusement, pour le compte de la préfecture de police, il espionne le Parti communiste. Oh, pour la préfecture, Baranès est une perle, une mine, une source à protéger. Pour d'autres services à qui il a proposé ses informations, en revanche, c'est un escroc. Et c'est donc ce personnage que l'on retrouve au cœur de cette histoire de fuite, où certains s'acharnent à désigner Mitterrand comme agent de Moscou. Voici comment Vibo décrit Baranès dans ses mémoires.
Celui qui passe pour être, depuis des années, l'agent numéro un de la préfecture de police me fait l'effet, avec son masque enjoué, l'irrésistible débit de sa voix chantante, son empressement serviable, d'être le garçon épicier du coin. Mieux encore, c'est le bonimenteur, le camelot des grands boulevards cherchant à placer des cravates, le bateleur de la foire du trône. Dissert, aimable, jamais démonté, toujours plein de sous-entendus, il s'efforce de vous mettre dans sa poche, clin d'œil canaille et complice, en se penchant vers vous pour glisser à votre oreille. Vous voyez certainement ce que je veux dire. Ceux qui veulent se montrer dans le coup, honteux d'avouer qu'ils ne comprennent pas, entrent dans le jeu savonneux de la confidence et se font rapidement enfariner.
Sauf lui, Vibo. Le 18 septembre 54, à 9h du matin, deux de ses agents ceinturent le commissaire Dide alors qu'il déverrouille la porte de sa voiture. Dans sa sacoche, on trouve trois feuillets manuscrits et deux dactylographiés. Ces deux derniers sont un résumé exact de la dernière séance du comité de défense. Dans la foulée, Baranès est arrêté chez lui, en train de rédiger deux notes portant sur ce même comité. Vibo en est persuadé, les fuites sont colmatées. Reste à savoir comment Baranès a eu en main de tels documents.
Un jour le diable vint sur terre. Un jour le diable vint sur terre pour surveiller ses intérêts. Il a tout vu, le diable. Il a tout entendu. Et après avoir tout vu, après avoir tout entendu, il est retourné chez lui, là-bas. Et là-bas, on avait fait un grand banquet. À la fin du banquet, il s'est levé, le diable. Il a prononcé un discours. Ça va. Il y a toujours un peu partout des feux illuminant la terre, ça va. Les hommes s'amusent comme des fous au dangereux jeu de la guerre, ça va. Des trains déraillent avec fracas parce que des gars pleins d'idéal mettent des bombes sur les voies. Ça fait des morts originales, ça fait des morts sans confession. Des confessions sans rémission, ça va. Rien ne se vend, mais tout s'achète. L'honneur et même la sainteté, ça va. Les états se mutent en cachette. En anonyme société, ça va. Les grands s'arrachent les dollars venus du pays des enfants. L'Europe répète l'avare dans un décor de 1900. Ça fait des morts d'inanition et l'inanition des nations, ça va. Les hommes, ils en ont tant vu que leurs yeux sont devenus gris, ça va. Et l'on ne chante même plus dans toutes les rues de Paris, ça va. On traite les braves de fous et les poètes de nigauds. Mais dans les journaux de partout, tous les salauds ont leurs photos. Ça fait mal aux honnêtes gens et rire les malhonnêtes gens. Ça va, ça va, ça va, ça va.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'affaire des fuites, un complot contre Mendès et Mitterrand.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Mi-septembre 1954. Dans son bureau de la DST, place Beauvau, Vibo fume nerveusement sa pipe et récapitule ce qu'il sait de cette affaire des fuites. 1. L'un des participants au très secret comité de la Défense nationale fait fuiter des informations ultra-confidentielles. 2. Le Parti communiste français serait le destinataire de ces informations. Moscou est donc au courant des décisions françaises en matière militaire et atomique. 3. Le commissaire Dide, le policier qui a alerté le gouvernement, accuse François Mitterrand d'être le traître. Mais quelque chose cloche. Il le sent, Vibo, mais ne sait pas encore dire quoi. Alors il reprend. Baranès, l'informateur du commissaire Dide, ment comme il respire et raconte n'importe quoi pour noyer le poisson. Mitterrand, au vu de l'enquête, ne peut matériellement pas être l'espion soviétique. Alors, Vibo note.
En désignant le parti communiste, Baranès nous amène volontairement dans une impasse, bloque l'enquête, camoufle et protège la véritable filière des fuites.
Mais le patron de la DST peste, Baranès et Dide, l'indique et le flic ont été relâchés. qu'à cela ne tienne, hors de question de rester là, à attendre. Alors, il revient à la source, les fuites elles-mêmes. Vibo décide de comparer les notes saisies chez Baroness et le compte-rendu de la séance du 10 septembre au comité. Il réclame à Jean Mons, le secrétaire général, les notes officielles. Étrange, celui-ci répond qu'il les a brûlées. Puis il les retrouve, mais ne peut pas les donner à Vibo, puis finit par lui transmettre. Et ce dernier compare.
D'entrée de jeu, les similitudes et ressemblances entre les deux documents, les notes de Baroness et les notes de Mons, sont criantes. Impossible d'éluder l'évidence. Il y a chez Baroness, tout au long de son compte-rendu, des phrases entières collant parfaitement aux notes de Mons. Le doute n'est plus permis. Tout se concentre sur Jean Mons, qui est l'un des plus hauts fonctionnaires de l'État, dépositaire des secrets les plus graves. La seule chose qui m'échappe encore, c'est de savoir si c'est Mons lui-même qui trahit, ou si c'est quelqu'un de son entourage. J'ai le sentiment de me trouver devant un complot terrifiant. Une menace invisible plane sur nous.
Ce 20 septembre 1954, la conviction de Vibo est faite. Mons, ou l'un de ses subordonnés, fait fuiter des documents ultra-secrets. Ceux-ci se retrouvent entre les mains de Baroness, un informateur du commissaire Did, introduit au sein du Parti communiste, qui dit les avoir trouvés au siège du PC. Le 22 septembre, François Mitterrand suspend le commissaire Did, et l'affaire devient publique. Dans les journaux, ce dernier attaque frontalement Mitterrand et Vibo, accusant d'ailleurs le patron de la DST d'être un agent soviétique. La presse de droite, l'Aurore et le Figaro en tête, s'indignent. Ainsi, à la une de l'Aurore du 24 septembre, on peut lire.
Il faudra dire, monsieur le ministre de l'Intérieur Mitterrand, pourquoi on a détruit un précieux réseau de renseignements. Le commissaire de police Did, fort connu et fort estimé, obtient d'un indicateur communiste des documents de deux séances du Comité de la Défense Nationale. Cet indicateur fournit des renseignements dont l'intérêt est capital. Le devoir de la police est de le protéger, de le rendre insoupçonnable. Et qu'avez-vous fait? C'est contre celui-là même que l'on se déchaîne. On devait le mettre à l'abri? On le brûle. Et puis on s'attaque au commissaire Did. Il faut d'urgence le discréditer. On l'arrête. On le relâche, puis on annonce qu'il est suspendu. Et M. Mitterrand ne répond toujours pas aux questions que nous lui avons posées sur la destruction du réseau de renseignement.
Voilà pour la presse de droite. Dans la presse de gauche, dont l'Humanité, on accuse la CIA d'une manipulation, d'un billard à trois bandes, ou quatre, ou plus. À Matignon, Malaise France est fiévreux. Le chef du gouvernement est en plein pour parler avec les Anglais et les Américains, afin de constituer nos forces militaires capables de dissuader les Russes d'envahir l'Europe de l'Ouest. Alors autant dire que dans ce contexte, cette affaire est plus que fâcheuse. Pensez donc, les Anglo-Saxons s'inquiètent d'un allié incapable de protéger ses secrets, d'un allié noyauté par des agents de Moscou, d'un pays dont le ministre de l'Intérieur détruit un réseau de renseignements anticommunistes. Voilà pourquoi Mendès presse Vibo, qui le 30 septembre peut enfin interroger Jean Mons. Le directeur de la DST raconte cette longue journée dans ses mémoires, avec force détail. Pour résumer, Mons se montre coriace et ne reconnaît que des négligences. Oui, les comptes rendus du comité auraient dû être enfermés dans un coffre-fort. Et oui, il les a à trois reprises oubliés sur son bureau. C'est ballot. Vibo a la conviction que Mons ment. Mais il a beau le cuisiner pendant des heures, tisser autour de lui une toile dans laquelle il s'enroulera lui-même, comme il dit. Mons se drape dans la posture de l'outragé, de l'innocent bouc émissaire. Vibo écrit qu'il est persuadé que Mons est l'âme du complot, le cerveau des fuites, le manipulateur des notes. Mais, poursuit-il, encore faut-il pouvoir étayer mon intuition, obtenir les aveux d'un homme qui se défend comme un tigre et qui assure vouloir découvrir quel est le salaud. C'est à ce moment, peut-être, que Vibo commet une erreur. Il propose à Mons une alternative, disons un salaud de substitution. Et si c'était l'un de ses subordonnés, l'un des fonctionnaires avec lequel il travaille? Mons admet ainsi qu'il doute de son entourage. Autrement dit, deux hauts fonctionnaires, les dénommés Turpin et Labrusse. Le Parisien libéré du 2 octobre 1954 titre « Développement sensationnel dans l'affaire des fuites ». Paris Presse, l'intransigeant, affiche à la une deux hauts fonctionnaires auteurs des fuites incarcérés à Fresnes. Le lendemain, ce même journal raconte à ses lecteurs.
L'interrogatoire de messieurs René Turpin et Roger Labrusse fut très serré, et ce n'est qu'à l'aube qu'ils reconnurent tous deux qu'ils étaient à l'origine des fuites. La DST, avant de procéder à leur interpellation, avait effectué un gros travail de préparation. L'interrogatoire s'était développé sur une base en quelque sorte scientifique. Les policiers obligeaient les deux suspects, par les preuves qu'ils leur mettaient sous les yeux, à reconnaître leur culpabilité. Vers 4 heures du matin, M. Turpin, qui venait enfin d'avouer, demanda aux inspecteurs s'il pouvait voir son patron, qui était interrogé dans un bureau à côté. Il y eut alors une scène assez pénible, M. Turpin disant à M. Mons « Je vous en prie, pardonnez-moi. »
Vibo a résolu l'affaire, mais il fulmine. Mons est mis hors de cause, ça l'horripile. Pour la droite, l'affaire est la preuve de l'infiltration de l'État par des crypto-communistes et par les homosexuels, ira jusqu'à dire un député gaulliste. Pour la gauche, l'affaire est un coup monté contre Mendès et Mitterrand. Les deux sont autant détestés par les gaullistes que par les communistes. Et le commissaire Did avait une bonne raison de haïr Mitterrand. À son arrivée place Beauvau, il a viré le préfet de police, mentor de Did. Le 14 octobre, le ministre Mitterrand donne une grande interview au magazine L'Express, où il parle de machinations politiques dégradantes, dans une réponse, comme d'habitude, d'une redoutable habileté.
Si cette manipulation a été voulue par Baranès et ceux qui l'inspiraient, les communistes, alors soit Did et ceux qui protégeaient Baranès ont été dupés, soit ils ont été complices. La campagne de presse déclenchée contre moi vient soutenir la deuxième hypothèse. Il est certain qu'on a voulu, dans d'honorables milieux, compromettre ma position de ministre de l'Intérieur à l'occasion d'une affaire suffisamment embrouillée pour qu'elle empoisonne l'atmosphère. On m'accuse d'avoir brûlé un réseau de surveillance des communistes. Mais est-ce un réseau de la connexion Baranès-Did ? Un louche agent double et naïf policier n'ont pas constitué, j'espère, le seul instrument de lutte anticommuniste de mes prédécesseurs place Beauvau.
Maintenant, que va devenir cette affaire suffisamment embrouillée ? Confiée à un juge d'instruction du tribunal militaire, elle est régulièrement commentée dans les journaux, qui, au gré des convocations judiciaires, ajoutent dans leur manchette des noms de politiques, de flics, de barbouzes, de journalistes, de militaires, jusqu'à ce que finalement on n'y comprenne plus rien. Peu importe au fond, parce que l'affaire occupe le terrain politique, c'est ça l'important. Désormais, pour la droite française, Mitterrand et Mendès sont des traîtres à la solde des communistes. Le 3 décembre, à l'Assemblée, le président du Conseil et son ministre sont attaqués de toutes parts. Le 4, lors de sa causerie hebdomadaire à l'ORTF, Pierre Mendès-France se défend.
L'Assemblée nationale a exposé au grand jour les faits que des intrigues et des manœuvres ont hélas cherché à obscurcir, non sans porter préjudice à notre prestige dans le monde et à l'efficacité de notre travail. Une entreprise de trahison livrait les secrets de la défense nationale. Elle les livrait depuis quelque temps déjà lorsque le gouvernement actuel est venu au pouvoir. Dès qu'il l'a su, il a démasqué l'entreprise. Les coupables ont été arrêtés et ils seront châtiés. Nous avons fait tout notre devoir. Peut-être méritions-nous autre chose que cette boue répandue complaisamment hier par certains et qui ne pouvait, quelle que soit leur appartenance politique, qu'écœurer la grande majorité des députés.
Le gouvernement tombe deux mois plus tard, en février 1955, sur la question de l'Algérie, ce qui sera aussi le sort de la 4e République. Mendès et Mitterrand redeviennent députés, à un an durant, et retrouvent un ministère en février 1956. François Mitterrand est nommé garde des Sceaux. Il est donc ministre de la Justice en exercice, quand s'ouvre, le 7 mars, le procès de l'affaire des fuites, dans lequel il va devoir témoigner. Quatre accusés prennent place dans le box. Labrusse, Turpin, Baranès et Mons. Le commissaire Did, lui, ne comparaît pas. Deux mois plus tôt, il a été élu député sous l'étiquette du parti d'extrême droite fondé par Pierre Poujade. Et il est couvert par l'immunité parlementaire. Au cours des 66 audiences, 92 témoins sont cités. Des militaires, des politiques, des hauts fonctionnaires, des policiers. C'est un entre-soi de gens puissants qui défilent. À la barre s'expriment les amertumes des uns, les rancœurs des autres, les haines recuites, les insinuations, les péroraisons, les attaques ad hominem. Par exemple, Jean-Louis Tixé-Vignancourt, l'avocat de Baranès. Personne n'ignore qu'il est d'extrême droite, il ne s'en cache pas. pourquoi défend-il l'indique manipulateur aux sympathies communistes ? Parce que, répond-il, tout ce que je veux, c'est une tribune contre Menendez et Mitterrand. Comme ça, c'est clair. On relève dans la presse que le procès est confus, obscur. Alors les comptes rendus d'audience des chroniqueurs se perdent dans des détails contradictoires. Dans ce brouillard judiciaire, on distingue pourtant des choses étranges. Une certaine mansuétude à l'égard de Jean Mons. Même Mitterrand se refuse à en dire du mal. Seul Menendez France garde la rectitude morale qu'on lui connaît. L'affaire ne se serait pas égarée si Mons nous avait tout dit au début du mois de juillet. Mais il est resté silencieux alors qu'il aurait pu nous aider. Je ne lui ai pas pardonné. La cour, elle, pardonne sans doute. Dans son jugement du 21 mai, Mons est acquitté, à peine sermonné pour des imprudences. Baradès est acquitté, lui aussi, au bénéfice du doute. Turpin et Labrus, en revanche, sont condamnés à 4 et 6 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Voilà, le procès était confus. L'immédiat après-procès l'est encore plus. Extrait des comptes rendus d'audience de Frédéric Potcher au journal parlé de la RTF.
Alors, un premier incident éclate lorsque quelqu'un crie à l'adresse de Maître Tixier-Vignancourt, collaborateur. Maître Tixier-Vignancourt, furieux, cherche son insulteur, croit le reconnaître en la personne du fils de Labrus, âgé de 18 ans, saisit un dalloz qui se trouve sur le pupitre du commissaire du gouvernement. Le jeune Labrus, bouleversé par la lourde condamnation qui vient de s'abattre sur son père, crie à l'adresse de Maître Tixier-Vignancourt, « Oui, collaborateur de Vichy !» Et une de nos consoeurs reçoit sur le crâne le dalloz mal lancé. Mais ce n'est pas fini. Quelques minutes plus tard, on apprenait que pendant le prononcé de la sentence, Labrus, exaspéré et désespéré, s'était emparé d'une bouteille et l'avait jetée à la tête de Baranès. Dans un coin, on voyait pendant ce temps-là, pendant cette scène lamentable, on voyait Madame Labrus et Madame Turpin effondrées, sanglotantes. Il y a des spectacles en vérité qu'on voudrait n'avoir jamais vus.
Voici donc l'affaire des fuites terminée, une affaire peu glorieuse que l'histoire a un peu oubliée. Le peu qu'en retient la chronique politique, c'est que l'affaire a brisé l'amitié qui unissait Menendez et Mitterrand. Le second n'a jamais pardonné au premier de ne pas l'avoir informé rapidement des accusations portées contre lui. Pour le reste, il faut peut-être s'en référer à l'éditorial du Parisien Libéré, au lendemain du jugement, où il est écrit. L'opinion publique s'en montrera-t-elle satisfaite ? Qui ? En son âme et conscience, osera considérer que la lumière est faite après un procès fertile en incidents, en digressions, en larges détours bien faits pour que la justice s'y perde. On pouvait craindre qu'à la fin soit tout simplement oublié le fait que des secrets de la défense nationale avaient été dérobés. Les obscurités de ce procès sont bien plus graves que ce qui a été condamné. 27 ans plus tard, François Mitterrand sera élu président de la République. Et Menendez France, plus ou moins retiré des affaires, gardera pour toujours l'image de la probité en politique. Pour deux hommes dont on a voulu tuer la carrière, c'est plutôt raté.
France Inter. Affaire sensible, Fabrice Drouel.
1954, l'affaire des fuites, nous en parlons avec notre invité Jean Garrigue. Bonjour.
Bonjour Fabrice Drouel.
Vous êtes historien, vous connaissez le chemin, vous venez souvent à Affaire sensible. C'est normal, puisque vous êtes auteur de nombreux ouvrages d'histoire politique, dont celui qui nous intéresse aujourd'hui, Les scandales de la République, hein, paru en 2013 chez Nouveau Monde Édition, où un chapitre est consacré à cette affaire. Alors d'abord, cette affaire un peu oubliée aujourd'hui, est-ce qu'elle a finalement marqué toutefois la 4ème République ?
Ah oui, on peut le dire. En fait, c'est la dernière grande affaire de la 4ème République. Elle est surtout emblématique de ce qui s'est passé à l'époque, c'est-à-dire qu'elle est au carrefour de la guerre froide, c'est fondamental, et des jeux politiques, des partis qui s'étaient, au lendemain de la résistance, au lendemain de la libération, qui s'étaient réunis pour gouverner. Donc c'est un symptôme de cette lente désagrégation de l'union, au fond, de l'après-guerre, et puis effectivement des ravages de la guerre froide et notamment de l'anticommunisme sur la vie politique de l'époque.
On peut dire que la 4ème République est une période de règlement de compte politique parce que ça vaut aussi pour la 3ème finalement, et puis ça vaut pour la 5ème.
Oui, c'est simplement, on est dans une période que nous sommes en train de retrouver aujourd'hui,
oui,
qui est une période d'extrême fragmentation de la vie politique. Mais là, finalement, l'essentiel se passe à gauche. Vous avez un parti communiste qui, à l'époque, est autour de 25% hein, des suffrages. Ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe, aujourd'hui.
C'est issu de la geste de la résistance.
Hein, exactement, exactement. Le parti communiste a tiré les principaux dividendes de son rôle dans la résistance, même si son rôle a été tardif. Mais enfin, il en a tiré les dividendes. De la même manière, d'ailleurs, que François Mitterrand, le héros de cette histoire, qui est à la tête d'un petit parti qui s'appelle l'UDSR, l'Union des démocrates et sociaux, issu de la résistance, précisément, est une figure qui va être 11 fois ministre sous la 4ème République, qui est sans cesse sous les feux des projecteurs, et qui cristallise, justement, cette opposition entre la gauche communiste et la gauche non communiste, mais qui cristallise aussi l'opposition de la droite, et on la voit intervenir dans cette histoire, des droites, devrais-je dire, parce qu'il y a à la fois de l'extrême droite avec Tixier-Vignancourt et ceux qui attaquent Mendès et Mitterrand à l'Assemblée qui viennent plutôt de la droite gaulliste. Bref, tout le monde est là et tout le monde se déchire avec quand même comme objectif, d'où le titre d'ailleurs de votre récit, abattre, discréditer Mendès France et Mitterrand.
Alors, parlons de la 4ème République de façon plus globale. Au passage, elle est souvent décriée. Elle a quand même présidé à la reconstruction de la France. Elle était parfaitement démocratique. Elle n'a pas que des défauts. Hein.
Elle est loin de n'avoir que des défauts. Et je fais partie des historiens qui essaient un tout petit peu de la réhabiliter régulièrement en rappelant que à cette époque, cette fameuse culture du compromis si difficile aujourd'hui à réaliser, elle s'est concrétisée à plusieurs reprises, ce qui a permis une croissance extrêmement forte, ce qui a permis de mettre sur pied la construction européenne. On peut la critiquer aujourd'hui, mais en tout cas, à cette époque-là, elle s'est mise en place. Et puis, quelque chose qui est un peu au cœur aussi de ces affaires, les débuts de l'armement nucléaire de la France, que De Gaulle va ensuite développer, mais dont les prémices ont été posées sous la 4ème République.
Alors, puisqu'on est en pleine guerre froide, vous le disiez, on est en paranoïa anticommuniste, est-ce que c'est l'un des facteurs principaux de cette affaire des fuites ?
Oui, c'est quand même le fond de sauce de cette affaire, puisque il s'agit au départ de désigner des traîtres à la patrie,
ouais.
Que sont c'est le parti de l'étranger. C'est le parti de l'étranger, sont des traîtres à la patrie. Alors il faut dire que à l'époque, on sait que le Parti communiste est totalement inféodé à Moscou. Il y a un mouvement pour la paix qui travaille essentiellement contre les États-Unis, contre le bloc atlantique, sous la houlette de l'Union soviétique. Mais en France, c'est vrai qu'il y a tout un combat, y compris mené par le général de Gaulle avec le RPF. Il y a tout un combat pour exclure finalement de la communauté nationale ce parti communiste si puissant. Et c'est au départ, c'est quand même ça le secret, la motivation de cette affaire.
Maintenant, pourquoi les deux cibles de cette affaire sont Pierre Mendès France et François Mitterrand, on dirait aujourd'hui des sociaux-démocrates, ils appartiennent à la gauche bourgeoise, deux gouvernements, deux gestions.
Tout à fait.
Pourquoi ces deux-là ?
Parce qu'ils sont un peu au croisement, justement, de toutes les rancœurs, de toutes les oppositions. Parce que d'un côté, ils ont le Parti communiste. Je rappelle que Pierre Mendès France, lorsqu'il est investi, refuse de comptabiliser les voix des communistes, parce qu'il considère que ce sont des opposants, que ce sont des marxistes inféodés à Moscou. Mais de l'autre côté, il y a l'extrême droite qui est en train de reprendre du poil de la bête. Il y a ce fameux mouvement poujadiste qui est en train de se structurer.
Dont Jean-Marie Le Pen est l'un des jeunes députés.
Exactement. En 1956, Jean-Marie Le Pen sera un des 50 députés du mouvement poujadiste. Et puis, il y a aussi toute la droite traditionnelle. Il y a les gaullistes qui sont hors du jeu parlementaire, mais qui évidemment ont tout intérêt à discréditer Mendès et François Mitterrand.
Alors, est-il vrai que cette affaire a brouillé l'amitié entre Mendès France et Mitterrand ?
Oui, Est-ce que quelqu'un comme François Mitterrand, qui est quand même un animal à sang-froid en politique, a pu être véritablement déstabilisé par le comportement de Pierre Mendès France, qui était un comportement de prudence en réalité? Je n'en suis pas si sûr. Ce qui les a brouillés, c'est tout simplement la concurrence, la compétition pour le leadership de la gauche non communiste. Et c'est vrai que peu à peu, mais surtout à partir de la Ve République, François Mitterrand s'est affirmé comme le leader au détriment de Pierre Mendès France, qui restait l'icône de la gauche, qui restait la rigueur morale,
et la probité,
cette icône de probité, tandis que Mitterrand, lui, s'est converti aux institutions de la Ve République et a été le candidat de la gauche en 1965. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il est possible que ça ait joué dans leur désaccord, mais qu'ensuite, par exemple, en 1965, Mendès France joue le jeu de soutenir la candidature de Mitterrand. Il l'a toujours soutenu, d'ailleurs, en 81, c'est la même chose. Donc la rupture n'était pas totale, simplement, c'était la concurrence entre deux grandes figures de la gauche.
Vous vous souvenez de ce que disait François Mitterrand le jour où il est introduisé chef de l'État à Mendès France? Sans vous, Tout cela n'aurait pas été possible.
Et Pierre Mendès France essuyait quelques larmes sur sa joue. On a beaucoup dit que par la suite, Mitterrand a un tout petit peu oublié de se référer à Mendès France, même s'il lui a rendu hommage à sa mort en 1980.
Oui, mais c'était l'idole de Rocard aussi.
C'était l'idole de la deuxième gauche et c'était surtout l'idole de Rocard. Exactement.
France Inter. Sensible.
Jean Garrigue, cette affaire des fuites a-t-elle précipité la chute du gouvernement Mendès, ou est-ce que c'est d'abord et avant tout la question de la décolonisation, enfin de l'Algérie, parce que la décolonisation en Asie du Sud-Est s'est bien passée finalement?
Ah, mais c'est une réussite pour Mendès France. Hein, ouais. Il s'est engagé en un mois à signer la paix en Indochine, il l'a fait. Et il en a été pour ça acclamé, et de toutes parts. Hein. Même la droite de l'époque est obligée de reconnaître que c'est une performance. Il est un héros pour beaucoup de Français, et il est un héros outre-Atlantique aussi. Quand il va aux États-Unis, c'est Superman, c'est le surnom qu'on donne à Mendès France. En revanche, évidemment, ça va se gâter avec le déclenchement de la guerre d'Algérie, la Toussaint 54, oui. Le 1er novembre 54, et puis aussi tout les affaires qui tournent autour de la construction européenne, la communauté européenne de défense. Il y a un grand débat à l'automne 54 où les européistes reprochent à Mendès France de ne pas s'engager suffisamment, les autres de trop s'engager. Il y a toutes les affaires de l'Union européenne occidentale où pouvait se reconstruire une armée allemande. Et là aussi, ça lui a été reproché. Et puis, il y avait toute une coalition d'adversaires, y compris dans son propre parti, avec quelqu'un qui s'appelait Martino Desplat, qui a été le prédécesseur de Mitterrand au ministère de l'Intérieur, et qui est l'homme, justement, qui avait, pas engagé, mais qui avait demandé au préfet de police Bello de se référer au fameux commissaire Dide pour enquêter sur cette affaire. Donc vous voyez, ça vient de loin, et on ne sait pas d'ailleurs, est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas ce règlement de compte au sein du Parti radical pour affaiblir Pierre Mendès France? Ça fait partie des hypothèses sur cette affaire très compliquée.
Oh, le billard. Tiens, concernant Mitterrand, alors il est resté au centre du jeu politique jusqu'à la conquête de l'Élysée. Il a eu très très chaud avec l'affaire de l'Observatoire, ça c'était grave.
Oui, très grave.
Mais alors moi, je sais que ce n'est pas votre avis, c'est le mien, je l'assume. Dans la construction du complot, moi ça me rappelle l'affaire Clairstream ou Sarkozy, qu'on voulait coupable par un complot, se retrouve victime, donc tout bénéfice. Est-ce que c'était tout bénéfice politiquement pour Mitterrand?
Ah oui, alors en cela, on pourrait effectivement faire un parallèle complètement, mais les affaires sont très différentes.
Bien sûr, une autre époque.
Mais il y a une manipulation orchestrée, en tout cas instrumentalisée par Dominique de Villepin contre Nicolas Sarkozy, et qui va évidemment finalement être dans servir les intérêts, l'image de victime de Nicolas Sarkozy, même s'il avait dit je vais le pendre un croc de boucher,
mais enfin
néanmoins c'était quand même lui la victime, le martyr de ce qui s'était passé. Et c'est vrai que dans cette affaire là de 54, c'est Mitterrand en sort quand même plutôt grandi, parce qu'on voit bien qu'il y a eu des complots, on les saisit pas très très bien, mais il y a eu quelque chose qui a été fait contre lui et qu'il a très vite, avec l'aide de Vibeau, il a réussi quand même à démonter, en tout cas, la machination.
Ça veut dire qu'à l'époque, le personnel politique avait compris que François Mitterrand avait un destin, probablement.
Je pense que c'était difficile à l'époque de ne pas le comprendre, parce qu'on voyait bien que c'était quand même un surdoué dans sa génération. Tous le disaient, tous le reconnaissaient. Mais néanmoins, à cette époque-là, celui qui apparaît comme le grand espoir, c'est plutôt Mendès France.
Mais bien sûr.
Et donc cette affaire n'a pas aidé, évidemment, Mendès France, parce qu'elle a coalisé les adversaires contre lui. Et finalement, c'est peut-être lui qui en est la véritable victime.
C'est un continuum, ce que vous dites, parce qu'on retrouve ça en 1980 avec Rocard et Mitterrand. C'est Rocard qui a la cote. Et c'est Mitterrand qui l'emporte.
Et c'est Mitterrand qui l'emporte, exactement. Or, on sait bien que Rocard était en quelque sorte un bébé Mendès France.
Mais
en
tout cas,
que c'était son grand homme qui se référait toujours à lui. Ils ont créé le Parti Socialiste Unifié, le PSU, en référence à Mendès France. Et c'est Rocard qui en a pris la tête. Donc, effectivement, il y a une sorte de continuum, oui.
Est-ce que cette affaire a porté préjudice à la France vis-à-vis des anglo-saxons, des Allemands, au moment où l'Europe est à 10 ans après la Seconde Guerre mondiale, où elle essaie de se construire ? Il y a un préjudice ?
Oui,
d'image.
Il y a forcément un préjudice d'image. Ça nourrissait aussi précisément cette image un peu ironique de l'instabilité chronique de la 4e République, parce qu'il ne faut pas oublier que en bout de course, il y a en février 1955 la démission, la chute du gouvernement de Pierre Mendès France. Ça n'est vraiment pas la raison principale de sa chute, mais ça fait partie de ses causalités. Et donc ça nourrit aussi cette image d'une France instable qui n'arrivait pas à trouver sa direction, mais dont je rappelle malgré tout que le bilan a été beaucoup plus positif qu'on ne veut bien le dire aujourd'hui.
Est-ce que le patron de l'Express, Servan Schreiber, ami de Mendès France et Mitterrand, surtout de Mendès, je crois, a joué un rôle dans cette affaire, l'Express, Libération, je parle de la presse de gauche?
Alors, c'est très différent, parce que Libération était un journal à l'époque qui avait été lancé par un grand résistant qui s'appelle Emmanuel d'Astier de la Vigerie, et qui était lui un compagnon de route du Parti communiste. Donc Libération, les révélations de Libération jouent en faveur plutôt du Parti communiste. L'Express, c'est tout autre chose, c'est du côté de Mendès France, parce que l'Express a été conçu pour Pierre Mendès France. Donc, c'est d'ailleurs Servan Schreiber qui avait trouvé les initiales PMF, qui faisaient la célébrité au fond de Mendès. Donc, c'est compliqué. On voit bien que les uns et les autres peuvent avoir intérêt à plus ou moins exploiter les choses, à condition que ça puisse affaiblir l'autre, c'est-à-dire François Mitterrand.
Un mot quand même d'un des protagonistes très importants de l'affaire, c'est Roger Vibeau, personnage assez fascinant. C'est pas un Edgar Hoover français, mais enfin, il a beaucoup de pouvoir. Hein.
Bah, c'est un personnage, effectivement, qui s'est notamment révélé dans cette affaire, et qui a eu quand même cette énergie, cette intelligence, ce courage d'aller jusqu'au bout, d'essayer de démonter un peu toute la machination. Sauf que aujourd'hui, on n'est pas plus avancé, qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé.
Merci infiniment, Jean Garrigue.
Merci à vous.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire des fuites en 54, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Élise Christophe.